Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on termine l'année par une vision d'avenir qui nous vient d'Outre-Manche. Ce matin et samedi prochain, on part explorer les villes en transition, un mouvement qui a démarré à l'initiative de Rob Hopkins et qui se répand sur toute la planète et même en France. Rob Hopkins est un homme très occupé, on n'est donc pas allé le voir à Totnes où il habite. On a choisi d'explorer Bristol. Ça tombe bien, ça fait le lien avec notre série sur les villes et le changement climatique. Peter Lipman, vous êtes un des fondateurs de ce mouvement des villes en transition avec Rob Hopkins. Est-ce que vous pourriez nous raconter les débuts, le commencement de l'idée?
So, Rob was teaching a course in
Rob
Ireland,
enseignait en Irlande, il donnait un cours de permaculture. Et il se trouve que tout près de chez lui, un dénommé Colin Campbell vivait. Et lui, il faisait partie de l'association sur l'étude du pic pétrolier. Ils habitaient tout près l'un de l'autre. Et il est venu, donc il est intervenu au cours de Rob. Et à l'issue du cours, les étudiants étaient complètement abasourdis en disant « Mais c'est une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça, ça s'est passé il y a 5 ou 6 ans. Six ans probablement. Donc Rob et les étudiants ont décidé à ce moment-là de voir comment la ville, au plan local, pourrait faire quelque chose pour baisser, faire réduire notre consommation énergétique et limiter notre dépendance aux combustibles fossiles. Donc c'était donc à ce moment-là un mouvement tout à fait spontané. Ce n'est plus comme ça que fonctionne Transition aujourd'hui, mais les étudiants donc ont réfléchi ensemble et c'est un moment où on a commencé à travailler beaucoup avec Internet. Donc, tout ce débat s'est porté sur Internet et moi, je travaillais en Angleterre pour une organisation qui s'appelle SUSTRAN, c'est-à-dire Sustainable Transport, ou transport durable. Et nous étions en train de voir comment, dans les quartiers, on pourrait réaménager les rues. Et si je voulais qu'on réaménage les rues, ce n'était simplement pas pour que... on refasse un espace social et pour les voitures et pour les gens. Et c'est parce que lorsqu'on reprend en main sa vie, on voit la manière de voir les choses différemment. Donc on reprend en main son regard sur la consommation énergétique ou alimentaire. Donc, tel était l'exercice. Donc je travaillais sur ce sujet à Kinsale et j'ai contacté Rob. J'ai dit, mais c'est vraiment intéressant ce que vous faites, on pourrait peut-être travailler ensemble. Et peu après ça, il a décidé de quitter l'Irlande. Il est venu vivre à Torness, où il a rencontré Naresh Gangrande, qui travaillait donc lui aussi sur le pic pétrolier et qui réfléchissait à la possibilité de transformer nos existences. Et c'est là que Rob a créé donc Transition pour la première fois. J'étais toujours en contact avec lui et avec mon ami Ben. On s'est dit, voilà, le mouvement a commencé à Torness, mais alors maintenant, comment faire qu'il se répande? Et après ça, donc, nous avons mis en place le réseau Transition, qui est, si vous voulez, l'organisation qui soutient toutes les initiatives transition dans le monde entier.
En fait, c'est passé d'un travail de quelques étudiants à une toute petite ville, Totnes, et maintenant, ça arrive dans des villes de la taille de Bristol. Est-ce que ça change quand ça change de taille comme ça, d'échelle ?
Bristol
compte à peu près 400 000 habitants et ce projet existe aussi dans des villes beaucoup plus grandes. À Los Angeles, par exemple, il y a le mouvement Transition. Imaginez Los Angeles et toute l'agglomération. Ça représente quelque chose qui est plus important que certains petits pays. Donc, l'action se fait sur des tout petits périmètres ou sur d'immenses villes, des îles, des forêts, des régions, des villes. Tous les périmètres possibles sont envisageables.
Mais comment est-ce qu'on peut dire que Transition Towns marche ou ne marche pas ?
Tout dépend. Quand on se pose la question de savoir si quelque chose marche ou pas, évidemment, cette question-là, elle en recouvre beaucoup d'autres. Ça peut être une question de mesure, En d'autres termes, comment est-ce qu'on va mesurer et qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que ce sont des éléments très tangibles, par exemple le dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère? Ou alors est-ce qu'on va mesurer des choses moins tangibles? Est-ce que cette communauté est heureuse? Est-ce que les gens se parlent? Ou alors c'est parfois des critères beaucoup plus individuels, à savoir est-ce que c'est une communauté heureuse ou alors est-ce que telle ou telle personne se sent heureuse, comment est-ce que chacun envisage son avenir. Et pour être très honnête, on ne sait pas. Et est-ce que ça va marcher? On ne sait pas non plus. Mais est-ce que ça fait quelque chose? Ça, oui, on peut répondre oui. Pourquoi? Il suffit de voir la vitesse à laquelle le mouvement s'est répandu dans le monde entier. Nous savons que ce mouvement fait quelque chose parce que les gens nous le disent. Ils nous disent l'effet que fait transition sur eux. On le sait aussi parce que des gens qui sont des gens de pouvoir s'intéressent à ce que nous faisons et viennent nous voir. Le secrétaire d'État, par exemple, de l'énergie et du changement climatique de Grande-Bretagne nous a demandé s'il pouvait venir à notre conférence à Londres au mois de mai. Nous avons dit, mais oui, vous pouvez venir, mais pas comme intervenant. Vous pouvez venir écouter, mais nous ne souhaitons pas que vous preniez la parole. Et il a dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Moi, je suis secrétaire d'État. Et il a dit, essayons, venez voir comment ça se passe. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il a beaucoup aimé. Et à telle enseigne d'ailleurs qu'il est resté beaucoup plus longtemps que ce qui avait été prévu. Il y avait tous ces aides de camp qui essayaient de le faire partir, mais il était tellement passionné.
Et ça, c'est un des principes du mouvement. C'est le fait qu'on a des relations avec les autorités, mais sur les bases qui sont celles du mouvement des villes en transition et non pas sur les bases habituelles. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et peut-être nous décrire maintenant un peu plus les principes du Transition Town Movement?
We believe that for people to really understand,
nous pensons que pour que les gens comprennent vraiment comment ils peuvent avoir un impact dans le monde, il faut qu'ils aient le sentiment de maîtriser dans une certaine mesure ce qu'ils font, d'avoir une prise sur ce qu'ils font. Or, la plupart des structures qui nous entourent sont des structures où personne n'a vraiment de pouvoir et de prise sur ce qu'il fait. On n'a pas le sentiment d'être utile et que votre action aura un effet. Et évidemment aussi, les réactions à ces structures sont de même ordre. Par exemple, si vous voyez des structures de pouvoir beaucoup plus classiques, y compris à gauche, on dit souvent, voilà, on n'a pas telle chose et on veut telle chose. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à fonctionner dans un premier temps. C'est comme ça que je voyais les choses. Or, ce que fait Transition et qui s'éloigne de ça, c'est que ce mouvement dit, nous allons rechercher l'autonomie de chacun tout en parlant toujours avec tout le monde, avec absolument tout le monde, y compris avec les gens qui sont à l'opposé de ce que nous pensons. Et nous devons les respecter et parler avec eux, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Raison pour laquelle nous sommes toujours heureux de parler avec les pouvoirs locaux, les entités locales et le gouvernement, quitte à ne pas être d'accord. Et cet échange, d'ailleurs, nous espérons qu'il va s'intensifier de plus en plus, car il y a des autorités, des entités, notamment au plan local, qui sont de plus en plus désireuses de travailler avec nous. Il y a même des entités qui ont adopté des résolutions en disant « nous devenons une autorité de type transition ». Alors, on leur a expliqué ce que ça signifiait concrètement pour qu'ils puissent développer leur propre manière de faire les choses. Tout ceci me ramène donc aux principes fondateurs de transition. Alors, les principes, ils touchent davantage au processus et à la manière de faire qu'à l'idéologie en tant que telle. Le processus est suivant. L'hypothèse de base, c'est que tout un chacun peut vraiment, vraiment agir et être agissant lorsqu'il est conscient de ses capacités et qu'il peut être en relation avec autrui. Après, reste à voir comment on met en place le cadre qui va permettre à chacun d'utiliser ce pouvoir qui est le sien. Dès lors, transition est là pour permettre un processus où on s'écoute, où on se comprend, tout en comprenant effectivement les réalités concrètes, tangibles, qui sont liées au, au puits pétrolier. Tout est lié à l'énergie. Notre alimentation est liée à l'énergie. Les combustibles fossiles sont également une source d'énergie et ils conduisent à un changement climatique du fait de notre utilisation de l'énergie. Donc, il est essentiel de comprendre l'énergie et il faut également faire en sorte que les humains puissent prendre le pouvoir, prendre leurs décisions quant à la manière de vivre. Et c'est ça le processus et les principes de transition pour l'instant.
Quand vous enseignez la vie durable, qu'est-ce que c'est que ça?
So basically, it's kind of hard to say in one word, but how do we address the issues of what's going on in our environment, in our society, politics, economics, basically all.
Disons que ça concerne la manière dont on aborde nos problèmes d'environnement, de société, de politique ou d'économie. Tous les problèmes auxquels on est confronté en tant que société globalisée, par exemple, et aussi trouver des modes de vie qui nous permettent de les résoudre.
So there's climate change. There's also the energy issues. So, for instance, US.
Par exemple, le changement climatique, les questions d'énergie. Les États-Unis ont besoin de beaucoup d'énergie fossile pour maintenir leur niveau de vie, leur économie ou leur système agricole.
And so, that's why, for instance, the Middle East is constantly under pressure.
Et c'est pour ça que le Moyen-Orient est constamment sous leur pression.
That oil is fundamentally the most important resource for how Americans live.
Parce que le pétrole est la source principale qui fait vivre les Américains. Mais si nous changeons nos modes de vie, nos façons de produire notre alimentation, beaucoup de ces problèmes perdent en gravité. Le changement climatique, nos interventions au Moyen-Orient, nos villes qui sont vraiment hideuses, aux États-Unis, où on est obligé d'avoir une voiture pour aller de la maison au travail, au centre commercial, partout. Si on n'a plus de pétrole, ça va être très dur pour les gens, parce qu'ils vont devoir faire tous ces trajets à pied.
Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Bristol pour continuer à travailler sur ces questions-là?
I didn't choose to come to Bristol. My wife is doing a master's here on environmental.
J'ai pas vraiment choisi de venir ici. Ma femme passe un diplôme d'écotoxicologie. Elle étudie l'impact des produits chimiques sur l'organisme. Moi, je peux conduire ma propre recherche n'importe où dans le monde. Et d'ailleurs, partout dans le monde, il y a des gens qui travaillent sur toutes ces questions d'environnement et politique, environnement et de société, et ainsi de suite. Alors, je peux travailler n'importe où. Et c'est passionnant parce qu'ils ont tous des méthodes différentes, des approches particulières en fonction de leur culture, du système socio-économique dans lequel ils vivent.
Quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe ici, et en particulier sur le mouvement des villes en transition?
I've seen a little bit of transition Bristol, and I think it's the first.
J'ai regardé un peu ce qui se passe, je veux dire, dans Bristol en transition. Il semblerait que ce soit la première initiative de cette taille, enfin à l'échelle d'une ville. Et le mouvement ici s'occupe de soutenir des initiatives plus petites dans les quartiers, ce que je trouve est un très bon rôle à adopter pour Bristol. Mais bon, tout ça c'est encore assez récent. Je suis allé visiter Totnes, qui est vraiment le hub principal du mouvement, et j'ai été très impressionné par tout ce que j'ai vu là-bas. Et quand je suis retourné au Japon, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que Transition Japon avait démarré, et j'ai passé un certain temps en Californie, où je m'occupe de Transition Towns, et il paraît que le manuel des villes en transition a été publié.
Basically just gives people.
Il fournit une sorte de panoplie d'outils aux gens pour qu'ils puissent démarrer leur propre processus de transition dans leur ville, village ou autre. Et c'est un ouvrage vraiment, vraiment excellent, parce qu'il ne dicte pas de marche à suivre. Il se contente de dire, voici des outils, forgez-vous vous-même les réponses aux questions que vous vous posez dans les situations où vous vous trouvez.
Qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement impressionnant à Totnes?
Je dirais, j'y suis pas resté longtemps et j'ai pas tout vu. C'est difficile parce qu'il ne s'agit pas de choses matérielles ou physiques qu'on peut décrire. C'est plus une espèce de processus culturel. Mais une des choses que j'ai trouvé formidable, c'est qu'ils ont là-bas cette forêt comestible, le fait qu'ils cultivent une forêt et pas les cultures annuelles classiques. Il faut voir la quantité de nourriture qu'ils produisent de cette manière.
of carbon emissions through their agricultural system.
On m'a dit qu'avec le peu de terre qu'ils ont, ils réussissent quand même à séquestrer plusieurs tonnes de CO2 par ce système agricole, ce qui est vraiment révolutionnaire, parce que la plupart des systèmes agricoles émettent des gaz à effet de serre. Mais celui-là, il les emprisonne et il produit de la nourriture. Et pas seulement de la nourriture, mais aussi du combustible, du bois de chauffage notamment. Un système autosuffisant qui se fertilise. Ça, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Et aussi le fait d'avoir créé leur propre monnaie, la livre de Totnes. Tout un système économique alternatif et aussi un système éducatif. Ils font beaucoup d'efforts pour enseigner aux gens à transformer nos problèmes en une sorte de situation exaltante. Se dire qu'on n'est pas en train d'assister à une dégradation de nos existences, mais qu'on tient vraiment une chance de pouvoir enfin résoudre tous nos problèmes. Changer tout ce qui ne nous plaît pas. Et ça, c'est vraiment très bien.
Il y a aussi peut-être une question d'échelle, parce que la première chose dont vous nous ayez parlé à propos de Totnes, c'est une réussite agricole. Et Totnes, effectivement, est une toute petite ville. Est-ce que dans une ville plus grande comme Bristol ou dans des villes encore bien plus grandes comme Los Angeles, il est possible aussi d'envisager une transition vers l'avenir? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème avec la répartition des humains aujourd'hui, dont on sait que plus de la moitié vivent désormais dans des villes?
That's a really hard problem to address, and it really depends on the city because Bristol is a very compact city.
C'est vraiment très difficile de répondre à cette question. Parce que ça dépend complètement des villes. Bristol, c'est une ville très compacte, ce qui permet de cultiver la nourriture juste à la sortie de la ville et dans sa périphérie, et donc de maintenir l'alimentation. Mais Los Angeles, par exemple, c'est une grande ville très étalée, et elle repose complètement sur les énergies fossiles qui permettent de transporter tout ce dont elle a besoin. C'est le modèle par excellence de la pire ville au monde. Mais à Los Angeles, il y a aussi beaucoup d'espaces vacants, ça permet... Par exemple, les gens se débarrassent des pelouses, ils commencent à planter des potagers devant la maison, donc on peut faire pousser pas mal de nourriture là-bas. Sauf qu'à Los Angeles, il n'y a pas d'eau non plus, donc les problèmes sont complexes, et je pense que les villes ne sont pas conçues pour produire ce qui est nécessaire à la vie, mais plus pour générer des tonnes de déchets de ce que nous consommons.
So I think there's a lot of potential for being creative, but I think ultimately what we need to do is scale down our cities and hopefully figure out a way that...
Donc, il y a un bon potentiel pour être créatif, mais je pense qu'au bout du compte, on a besoin de réduire la taille de nos villes. Quand il y aura moins d'énergie disponible, comment est-ce qu'on va faire pour nourrir les gens, pour leur donner de l'eau, transporter leurs déchets ailleurs, les recycler? Il y a toutes sortes de problèmes à régler dans notre système de ville, et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la solution pour quand ça va devenir plus difficile.
Vous avez dit tout à l'heure que c'était aussi une question culturelle, et vous avez mentionné le fait qu'aujourd'hui on trouve des villes en transition un peu partout dans le monde, y compris au Japon. Est-ce que vous pensez que dans des cultures très différentes, la traduction de ce mouvement est très différente, ou est-ce que vous avez l'impression que là on a trouvé une sorte de base commune, de terrain d'entente sur lequel tout le monde peut se retrouver?
I think the transition movement is designed very well, that it actually just gives very simple tools for how to see and how to address problems.
Je pense que le mouvement des villes de transition est bien conçu justement pour repérer les problèmes et pour s'y attaquer. Il permet que les gens s'approprient les outils et les utilisent en fonction de leur culture, des valeurs et des pratiques qui fondent les lieux dans lesquels ils travaillent. Donc, le mouvement transcende les frontières culturelles.
But at the same time, I think it's really, really as sort of like with the name specifically Transition Town,
je pense vraiment... Vraiment, surtout avec ce nom, ville en transition, que c'est un pur produit du monde occidental. Donc, on verra bien si ça marche pour les pays non occidentaux. Cela dit, beaucoup de gens qui sont très conscients des problèmes environnementaux, sociaux ou économiques, qui sont les nôtres, comprennent qu'il faut que ça change. Le plus grand défi qu'on a, c'est d'affronter le changement climatique et la crise énergétique. Bon, maintenant, il faut y ajouter le chômage de masse qui conduit tout droit à une grande instabilité sociale et politique.
Allows for is, I think, really sort of
Mais donc les outils qui sont proposés dans le manuel servent à comprendre ce que sont ces problèmes, pourquoi nous les avons et quelles sortes de questions on doit commencer à se poser autour de nous. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'aider les gens de notre entourage à prendre conscience de ces problèmes. À eux ensuite de trouver comment s'y prendre pour les résoudre. On ne leur donne pas des réponses, on leur donne des outils. C'est pour ça que c'est potentiellement un outil transculturel très puissant.
Going to California with an ache in my heart. Peter Lippmann, quand on vous écoute, on pense aux philosophies orientales. Et je me demandais quelle est la place du conflit dans votre façon de voir.
I studied philosophy at university and I
j'ai étudié la philosophie à l'université.
Thinking about how we are.
Au jour d'aujourd'hui, j'aime encore penser à ce que nous sommes et au fait que ce que nous sommes à l'intérieur a une incidence sur ce qui se passe à l'extérieur. Pas simplement y penser, mais le ressentir vraiment. Et dans cette pensée que nous avons au sein du mouvement Transition, on prend en compte le travail intérieur. On prend en compte, si vous voulez, l'aspect spirituel de ce que nous sommes, plus que ça peut se faire dans d'autres cadres politiques classiques. Alors, le conflit, vous en parliez, c'est fondamental. La vie est faite de conflits. Le conflit, il est là, implicite, dans toutes les choses que nous faisons. Et si on lutte d'ailleurs tellement et qu'on bagarre tellement dans cette vie, c'est soit parce qu'on esquive complètement le conflit, soit qu'on le reconnaît, mais qu'on le qualifie de négatif. On dit le conflit, c'est mauvais, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Ce qui est une absurdité. Le conflit est inhérent à toute forme de relation. Et c'est pourquoi Transition essaye de transformer le conflit, l'accepter, le reconnaître, car il fait partie de la vie, et dire ensuite, on en fait quoi? Parce que le conflit, il est porteur d'une énorme énergie. Vous voyez, lorsque les gens sont en situation de conflit, vous voyez l'afflux d'énergie qui se produit, qui est à l'œuvre. Eh bien, si on est honnête avec soi-même et qu'on n'a pas peur de ce conflit, on peut tout à fait à ce moment-là essayer d'utiliser cette énergie, que le conflit n'est pas terrifiant, qu'il peut être fructueux, qu'il peut amener à des véritables avancées. Et justement, le travail de groupe que nous faisons consiste en grande partie à transformer l'énergie du conflit.
Sur un plan plus personnel, comment est-ce que le mouvement des villes en transition a changé votre propre vie, votre existence?
Le mouvement a changé ma vie du tout au tout. Est-ce que vous connaissez Edward Said,
un
auteur palestinien, qui a écrit un très beau livre, Orientalisme? Il a dit, Edward Said, sans optimisme, on ne peut pas faire de travail politique utile, ce qui est vrai. Mais on peut aussi voir les choses différemment, car lorsque l'on fait un travail politique utile, on a de l'optimisme naturellement. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, avec ce mouvement, c'est-à-dire que j'ai davantage d'optimisme et Transition m'a permis de faire un travail vraiment très intéressant. Et puis il y a autre chose qui a été dit par William Morris. Il a fait une distinction entre la besogne inutile qui nous déshumanise et la belle ouvrage qui nous donne toute notre humanité et nous permet de développer notre potentiel en tant qu'humain. Et c'est effectivement ce que je ressens et c'est ce que j'ai pu vivre grâce à Transition.
Mais est-ce que vous vous occupez encore de Sustrans, par exemple?
Oui, mon activité rémunérée se fait justement chez Sustrans. Je suis directeur des politiques. Alors je consacre beaucoup de temps à Transition, mais à titre gratuit.
vie, vous êtes, vous intéressez à tout ce qui concerne les plantes, en fait. Et vous participez à plusieurs des activités qui vous relient à ce mouvement des villes en transition.
Yeah, that's right. I moved to Easton.
Oui.
Couple of years ago now.
Je suis venue m'installer à Easton il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et depuis, je me suis impliquée dans pas mal de choses en fait. D'abord le mouvement Transition d'Easton et aussi le groupe de permaculture qui se réunit dans un centre social du quartier à Cabalé. Mais ça, c'est autre chose. Le groupe Transition d'Easton est actif depuis la fin de 2007. J'y suis depuis le début. On a commencé par monter un groupe initial. Je ne sais pas si tout ça vous est familier. Non ? Bon. L'idée de base, c'est que vous avez un groupe initial de 5 à 12 personnes qui se réunissent et qui organisent des événements. Ça peut être une projection de film, un atelier de partage de compétences, une soirée, n'importe quoi. L'idée, c'est que ça permette une prise de conscience qui ouvre sur la transition. Autour de tous ces sujets liés à l'énergie, comme le pic pétrolier, le changement climatique, et de les inscrire parmi les sujets de préoccupation du quartier. À Easton, en fait, on a eu un peu de mal à trouver ce qui pourrait être la place de la transition. Parce qu'il se passait déjà beaucoup de choses dans toutes sortes d'endroits. Il y avait des groupes de jardinage, des cafés de quartier et d'autres choses dans le genre qui existaient. On avait déjà tout, ce qui fait que le groupe de transition a vraiment cherché longtemps pour trouver quel vide on pourrait éventuellement remplir.
Pourtant, ça paraissait quand même utile ou nécessaire.
Again, yes, that was something which we discussed.
Eh bien, ça aussi, on en a beaucoup discuté. Enfin, oui, on pensait qu'il y avait de la place pour ça. Parce que même s'il se passait déjà des choses, tout n'était pas... Par exemple, nous avons commencé en projetant des films. Et ça, ça ne s'était jamais fait à Easton. Et d'autres, des films qui parlaient du pétrole. L'autre chose, c'est qu'on a découvert que les groupes n'avaient aucune relation les uns avec les autres. Donc nous, on pouvait apporter ça, donner des informations sur ce que chaque groupe faisait, être une sorte de point central pour favoriser les relations.
Il y a du monde qui est venu ?
Yes, they did.
Oui, oui, il y a eu du monde. Au début, on a commencé par essayer de faire venir les groupes déjà actifs à Easton, pour leur expliquer qui on était, ce qu'on faisait et ce qu'était la transition. Et il y a eu du monde, même si bien sûr on en espérait davantage. Mais je pense qu'attirer les gens sur nos activités, nos événements, c'est beaucoup plus difficile que d'aller les rencontrer là où ils sont. Donc, si on prend ça en compte, c'est plutôt une réussite. Et ensuite, nos projections de films ont très bien marché. Quelques films ont attiré beaucoup de monde.
Vous disiez qu'il y avait d'autres activités auxquelles vous étiez, dans lesquelles vous étiez impliqué, entre autres la permaculture. Et vous avez dit, mais c'est différent. Ce n'est pas complètement différent.
Non, vous avez raison. La transition, ce n'est pas si différent. La transition vient de là, bien sûr, d'un cours sur la permaculture. Ce sont ses racines. C'est juste que pour moi, ce sont deux engagements bien différents. J'ai suivi un cours de design en permaculture en 2006. Et ensuite, je n'ai plus fait grand-chose de ce côté-là. Quand je me suis installée à Easton, ça a été l'occasion de renouer avec. Parce qu'il se passait beaucoup de choses. Je me suis inscrite sur une mail list pour recevoir des informations sur les réunions, les rencontres. J'ai trouvé un groupe avec lequel je m'entendais bien, au centre social du quartier. Et j'y vais régulièrement depuis 2 ans. L'activité principale du groupe, ce sont les parcelles jardinées. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Le groupe de permaculture travaille dans un verger et un jardin collectif que le conseil communal nous loue
small rent on that each year.
Nous payons un petit loyer chaque année. C'est ouvert à tous. Chacun peut passer quand il veut. Les jours de travail, il y en a deux par mois. Et faire toutes sortes de choses. Bavarder, cultiver des légumes et des fruits, participer à la cueillette.
Deux jours de travail par mois, c'est très peu.
Ça semble très peu. Mais en fait, les gens peuvent venir entre deux séances. On fait un peu ce qu'il y a à faire et...
Yes, it varies a lot.
Des fois même des gens passent et en fait on arrive à tout faire.
Dans ces petits jardins, dans ces jardins partagés, vous faites pousser surtout des légumes, surtout des fleurs.
We started off with mainly fruit trees.
On a commencé surtout avec des arbres fruitiers qui avaient été plantés quelques années auparavant.
So we worked out from those and planted underneath the trees.
On est parti d'eux et on a planté dessous des oignons, de l'ail. On a fait des terrasses aussi, parce que le terrain est en pente. Donc on a aménagé des terrasses et elles nous ont permis de planter davantage de légumes. Cette année, on a pu prendre un peu plus d'espace, en bas de la pente. Ce qui est très bien, c'est une parcelle beaucoup plus plate. Et là, on a fait un potager plus traditionnel avec toutes sortes de légumes, des salades et ainsi de suite.
Les arbres fruitiers, c'est important aussi, aussi bien pour la permaculture que pour le mouvement des villes en transition.
I think there's a lot of
les arbres fruitiers, oui. Je pense qu'on penche beaucoup vers tout ce qui est pérenne, en fait, dans la permaculture. Et Ville en Transition soutient cette notion. Par exemple, ils ont organisé une journée de dons d'arbres fruitiers il y a 2 ans. Et ça a vraiment très très bien marché. À Easton, on a dû donner quelque chose comme 200 arbres. Les gens les avaient retenus et ensuite ils sont venus les chercher. Du coup, il y en a beaucoup qui posaient des questions sur la transition, ils voulaient savoir ce qu'on faisait. Et oui, ils avaient envie de faire pousser des arbres fruitiers, c'était cool. Le verger virtuel.
Pourquoi est-ce que c'est important, cette notion de pérennité?
D'abord, les plantes pérennes repoussent tous les ans. On n'a pas besoin de les faire germer à partir de semences, ni de les nourrir avec des engrais. Tous ces efforts et cette énergie qu'on met dans les plantes annuelles. La permaculture cherche l'efficacité, un effet maximum pour un minimum d'effort ou quelque chose dans ce genre. Et les plantes pérennes font exactement ça en termes de croissance. Il y a des gens qui essaient d'utiliser cette capacité à plus grande échelle, dans des techniques agroforestières, par exemple, et aussi dans des fermes en permaculture. Ce sera intéressant de voir comment ça se développe à l'avenir.
C'est la raison pour laquelle les arbres fruitiers qui sont plantés ne sont pas, comme on pourrait l'imaginer, des pommiers, par exemple, mais plutôt des noyers, des châtaigniers, des noisetiers.
À Bristol, les arbres que nous avons plantés étaient des fruitiers traditionnels, des cerisiers, des pommiers, des poiriers. Beaucoup d'autres villes en transition ont planté des arbres à fruits secs, comme des noyers ou des noisetiers. Je ne crois pas qu'on ait fait ça ici, du moins pas encore. Mais oui, c'est vrai, en permaculture, on recherche beaucoup ces arbres-là.
Ce système des jardins partagés, vous y êtes également très investie, vous l'avez dit. Vous êtes jardinière de métier. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est également transmettre des savoir-faire.
That's right, yes.
Oui, c'est vrai. Aussi bien la permaculture que la transition encouragent le partage des compétences, et un partage gratuit. En plus, il y a un autre mouvement à Bristol, la Free Economy. Je crois bien que c'est international, mais en tout cas, à Bristol, c'est très populaire. Et aussi, ils organisent des sessions de partage de connaissances. Donc, c'est vraiment une idée très, très populaire. Et je partage ce que je sais faire gratuitement, aussi souvent que possible. Pour moi, la différence entre le travail, le volontariat, la vie associative et de quartier, tout ça est très mélangé. Je sais que dans certaines cultures, il n'y a pas de mot spécifique pour désigner le travail. Parce que le travail, c'est tout ce qu'on fait pour vivre. J'aime beaucoup cette idée. Donc je travaille comme jardinière, je jardine aussi beaucoup dans le jardin partagé et dans les écoles. Donc vous voyez, c'est très proche, le professionnel et l'associatif.
Dans les écoles, qu'est-ce que vous faites?
L'année dernière, j'ai commencé dans un projet qui s'appelle GrowFun, Growing Real Organic Food in Urban Neighborhoods. Ça a commencé dans les petits jardins, à l'arrière des maisons en ville. Les gens pouvaient se porter volontaires pour jardiner chez les autres. 10 heures, ça leur donnait 10 crédits. Et quand ils avaient fait 10 heures, ça leur ouvrait le droit à une journée d'action dans leur propre jardin, où les autres venaient les aider. Donc au début, c'était ça, un réseau de voisinage pour s'entraider. Et puis, j'ai commencé à faire de l'enseignement pour eux, parce qu'ils ont eu une subvention pour organiser des cours dans les écoles.
Il y a
une ou deux écoles d'Easton qui étaient sur la liste, et il y avait, je crois, trois enseignants. Et voilà, on s'est mis à apprendre le jardinage aux enfants, à leur donner des notions de permaculture. On essaie de rester sur des choses très simples. On recycle, aller là-bas, enseigner, expliquer. Ça me plaît énormément. J'aime beaucoup les enfants d'Easton. Il y en a qui n'ont jamais vu la mer, ni la campagne, ni un bois. Les emmener dehors, ne serait-ce que pour ça, c'est un vrai plaisir.
Quelle est l'importance relative de ces activités? Par exemple, est-ce que vous avez, à travers ces activités, suffisamment de légumes et de fruits pour vous nourrir toute l'année, ou bien est-ce que c'est juste le plaisir de rapporter trois tomates une fois par an à la maison, ou...
It's a bit of both. I'm really pleased to be able to
c'est un peu les deux. Je suis tellement heureuse de pouvoir travailler dans le jardin de mes parents, qui est à une dizaine de kilomètres du centre de Bristol. Là-bas, on a fait un potager avec des serres, on a planté quelques arbres fruitiers. Et depuis quelques années, on plante de tout, des légumes, des fruits. Il commence à y avoir pas mal de choses. Cette année, on a fait vraiment une bonne récolte. On a pu rapporter de quoi se nourrir chez nous.
Et ça, c'est la famille, ou bien est-ce que ça fait aussi partie du système de GrowFun?
This bit is only family.
Non, ça, c'est uniquement la famille. On aimerait ouvrir le jardin dans les années qui viennent, évidemment, pour en faire un lieu d'apprentissage, quelque chose de plus partagé, de moins personnel. Cette année, c'était génial. Je n'ai presque rien acheté, ni en légumes, ni en fruits. J'étais vraiment, vraiment contente. En ce qui concerne les jardins partagés, non, ça ne produit pas grand-chose. C'est beaucoup plus un endroit pour se faire des amis ou pour apprendre.
Mais vous pensez qu'à l'avenir, ça va prendre de l'importance et ça va devenir véritablement un mode de vie dans lequel les gens pourront s'alimenter eux-mêmes dans une ville?
Je pense qu'on peut aller dans cette direction, en tout cas. Oui. De là à dire que tout le monde pourra s'alimenter grâce au jardin partagé, non. Ce à quoi il sert, c'est à donner aux gens assez de confiance en eux pour qu'ensuite ils se lancent sur une parcelle louée ou dans leur jardin derrière chez eux ou même sur un balcon, dans des bidons ou autres. C'est plus ça, renforcer la confiance et les connaissances.
Easton
a plus de mal que d'autres quartiers à Bristol. Il y a très peu d'espaces verts ici, les jardins sont minuscules. On a un défi plus grand à relever ici. Plus généralement, je pense qu'à l'avenir, dans un avenir où l'énergie sera rare, je pense que les villes vont réduire en taille. Les gens iront s'installer à la campagne. Les villes seront plus petites, plus concentrées. Les propriétés aussi diminueront. Oui, bien sûr, il y aura encore des villes, mais plus petites.
on a évoqué le pic pétrolier, qu'est-ce que vous appelez la net energy, Peter Lipman?
Lorsque l'on extrait de l'énergie, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz, il faut bien sûr de l'énergie pour extraire cette énergie. Et ce que font les humains, comme les animaux d'ailleurs, c'est qu'on commence bien sûr par prélever ce qui est le plus facilement prélevable. Donc lorsqu'on a commencé à forer pour trouver du pétrole, on a foré dans le désert et le pétrole a jailli, et donc le retour d'énergie par rapport à l'investissement énergétique était de 1 baril pour 100 barils. En bref, il fallait utiliser 1 baril d'énergie pour en retirer 100. Donc il y avait un énorme excédent énergétique. Si vous voyez ce qui se passe autour de vous, tout est possible puisqu'il y a une énergie excédentaire. S'il n'y avait pas d'énergie excédentaire, vous seriez à la chasse et à la pêche à glaner votre alimentation. Quand on a peu d'énergie excédentaire, on recherche quoi ? De quoi manger et encore de quoi manger et éventuellement de quoi s'abriter. Et quand on a de l'énergie excédentaire, on va avoir des médecins, des comptables, des commerçants, des gens qui font tout un tas de choses, je dirais, peut-être pas inutiles, mais secondaires. Or, ces 200 dernières années, on a eu une véritable explosion de l'énergie excédentaire, d'abord avec le charbon, puis avec le pétrole et enfin avec le gaz, et nous avons utilisé cette énergie excédentaire qui a donné le monde que nous avons aujourd'hui avec tous les problèmes qu'il commence à poser. Mais ce concept dont je parle, c'est bien l'énergie nette. Si vous avez vu la courbe de Hubbard classique, se présente sous la forme d'une distribution normale. Vous atteignez un pic lorsque vous avez utilisé la moitié de l'énergie disponible et ensuite il y a une décroissance. Alors, cette courbe, elle concerne l'énergie brute. Or, nous avons quasiment atteint le pic pétrolier, ce qui veut dire qu'on a utilisé la moitié de l'énergie, mais c'est la moitié qui était facilement accessible. Cette moitié qui était juste sous terre, Texas ou dans le désert en Arabie. Ce n'était pas le pétrole qui est caché sous la calotte glaciaire. De sorte qu'aujourd'hui, le rapport entre l'énergie nette et l'énergie brute n'est plus de 1 à 100, mais de 1 à 15 ou de 1 à 10. Vous appliquez ça maintenant à la courbe de Hubbard, ça veut dire que nous sommes maintenant au pic, donc on a utilisé la moitié de l'énergie brute, certes, mais nous avons beaucoup moins d'énergie nette, car celle qu'on doit maintenant aller chercher, elle est beaucoup plus difficile à aller récupérer. Donc, lorsqu'on arrive au pic, on a utilisé la moitié du total brut, on a en fait utilisé les trois quarts de l'énergie utile, de sorte que tout à coup, non seulement on a moins d'énergie disponible, mais qu'en plus, elle est plus difficile à aller extraire. Si on veut avoir des énergies renouvelables, il faut en plus avoir ce gaz encore disponible pour aller chercher l'énergie qui sera nécessaire pour construire les infrastructures de ces éoliennes, par exemple. Voyez l'Espagne, la moitié de leur électricité est provenue de l'éolien il y a 2 semaines. Jamais un autre pays n'a fait autant. Certes, mais toute l'infrastructure de l'éolien, elle a été créée grâce au pétrole, car le transport et les infrastructures reposent sur le pétrole. Est-ce que nous aurons suffisamment d'énergie nette encore disponible pour mettre en place ces infrastructures qui vont permettre de soutenir les renouvelables ? C'est extrêmement important. Or, nous ne connaissons pas grand-chose en matière d'énergie. Nous commençons tout juste à comprendre la question, donc nous n'avons pas encore les réponses. Et si vous voyez, cette question de l'énergie nette, elle nous mobilise de plus en plus chez Transition. Voyez aussi, exemple, au Royaume-Uni, tout le monde dit « Vive le TGV, le train à grande vitesse, c'est merveilleux ». En France, il y en a partout, mais c'est complètement absurde. C'est ne pas prendre en compte les réalités de l'énergie, parce que la vitesse est fonction de la résistance à l'air. Plus on va vite et plus la résistance est forte, dans un tel contexte, l'efficacité énergétique du TGV est absolument exécrable par rapport à un transport à vitesse classique. Si nous n'avons plus d'énergie nette, on ne pourra plus s'offrir le luxe de ce train à grande vitesse. Alors, on essaye, ça fait un peu un drôle d'effet, on a l'impression qu'on essaie de trouver un remède à nos difficultés en appliquant justement ce qui a été la source du problème. Et effectivement, des problèmes qui sont solubles vont finir par des problèmes définitivement insolubles si on ne voit pas les choses différemment. Et bon, certains disent peut-être que nous avons déjà franchi le Rubicon et que la solution est déjà impossible et hors de portée, mais bon, puisque nous y sommes, essayons de limiter les difficultés au maximum. Alors, quelle est l'histoire culturelle qui sous-tend tout ça? C'est quoi cette narrative, cette façon de nous voir? Quelque chose dont on n'est pas forcément conscient, surtout ici en Occident. Il y a toute une, je dirais, une trame culturelle qui tourne autour du mythe du progrès, à savoir qu'on pense être capable éternellement de relever tous les problèmes qui se posent à nous et que donc la vie va forcément s'améliorer encore et encore et toujours. Il suffira de quelques petites améliorations technologiques. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Or, le problème avec ce mythe du progrès, c'est qu'il y a également l'autre versant de la chose qui est le mythe de l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on craint l'apocalypse. Et ces deux éléments, ces deux polarités sont toujours présentes. On l'a vu dans le marxisme, on l'a vu dans le christianisme. Cette espèce de narrative avec ses excès. Et qu'elles soient présentes, ces formes narratives ne me gênent pas en tant que telles. Cela fait partie de notre histoire. Nous avons besoin d'histoire et de récits pour élaborer l'histoire. Par contre, ce qui m'inquiète dans la société occidentale, c'est que nous avons très très peu d'histoires qui sous-tendent justement notre pensée. Il y a ce mythe, un ou deux peut-être, mais vraiment très peu. S'il y en avait davantage, on verrait peut-être notre monde comme un monde de contradictions, un monde où on peut essayer différentes solutions pour voir ce qui marche, au lieu d'être dans ce monde où nous disons, voilà, ça c'est la solution, on va l'appliquer et ça va marcher.
À ce point, Peter Lippmann, on hésite entre l'histoire qu'on a envie de vous demander pour la suite. Il y en a deux, me semble-t-il. Une qui nous mène encore plus près de l'apocalypse, c'est l'histoire du changement climatique. Et l'autre histoire, qui pourrait être celle d'une issue plus heureuse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de tout ça ?
Je pense que les deux histoires ont besoin l'une de l'autre. On ne raconte pas l'une sans l'autre. Alors, pour ce qui est du changement climatique, si l'on réfléchit à l'histoire des 20 dernières années, il est intéressant de voir que tout ce qui a été annoncé par les scientifiques, s'est avéré erroné. Non pas parce que le changement climatique n'existait pas, mais parce que les choses se sont détériorées encore plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Lorsqu'on parle avec cette communauté scientifique, c'est étonnant de voir à quel point ils sont affolés, totalement effrayés. Et je pense que si nous poursuivons sur notre lancée actuelle, nous sommes d'ores et déjà dans une situation irréversible en matière de changement climatique. C'est une évidence. On a peut-être d'ailleurs atteint le point de non-retour en matière de catastrophe. Et si nous avons franchi ce point, il y aura des catastrophes sans aucun doute. Et nous vivrons dans un monde où il y aura beaucoup moins d'espèces et beaucoup moins de complexité. Le changement climatique est un très grave problème, mais ce n'est que l'un des problèmes que nous rencontrons. Quand une espèce, la nôtre, en l'occurrence, utilise tant la photosynthèse, on voit bien que le changement climatique n'est qu'un indicateur du fait que le système est sous tension et sous stress. Il n'y a pas que le changement climatique, il y a d'autres éléments cruciaux dont on dépend, par exemple, le cycle de l'azote, les niveaux d'acidité dans les océans. Et les spécialistes nous disaient, nous avons déjà franchi le seuil de l'infranchissable sur un certain nombre de ces critères. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que nous avons des indicateurs qui nous montrent que le système est sous stress et les phénomènes se manifestent à différents niveaux. D'où la question, comment réagir intelligemment, comment prendre en compte cette menace extraordinaire sans pour autant baisser les bras en disant « bon, bah tant pis, on va faire la fête, après moi le déluge ». Non, il s'agit d'agir intelligemment, et pour ce faire, je crois qu'il faut commencer par être honnête et reconnaître le danger dans lequel nous nous sommes mis, nous et les autres espèces, nous, j'entends par là aussi la beauté, la complexité, et je crois qu'il faut commencer, je crois, par faire le deuil et ressentir la tristesse, le profond chagrin de tout ce qui s'est fait. Et sauf à avoir vécu ce chagrin, on ne peut pas vraiment le comprendre, pas comprendre l'ampleur de la catastrophe. Et ensuite, de cette tristesse peut surgir enfin une passion, une volonté de transformer l'énergie, une véritable passion qui dit que nous ne pourrons changer les choses que si nous travaillons avec les autres, car nous sommes un animal social. Or, bien souvent, on va travailler avec quelqu'un de sa rue ou de son quartier, parfois à un échelon plus vaste ou à l'échelon international, par exemple. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose, et c'est en changeant les choses que l'on développe et notre énergie et notre pouvoir d'agir. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'échelle du problème, l'ampleur du problème devient alors plutôt une sorte de libération. On se dit, ce n'est pas quelque chose que je peux résoudre à moi tout seul. Je ne sais d'ailleurs même pas si le problème est solvable, mais en tout cas, on peut faire de son mieux. Et au moins, moi le soir, lorsque je vois ma fille de 12 ans endormie et qui, lorsqu'elle dort, a encore aujourd'hui ce visage tellement innocent, et je sais à quel point elle m'admire et me fait confiance, et je la regarde dormir, et je me dis, tout ce que je veux pouvoir te dire un jour, c'est « j'ai fait tout mon possible ».
Voilà, c'est terminé pour ce matin. C'était donc le premier volet de notre voyage à Bristol en transition. Vous entendrez la suite la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez télécharger cette émission sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également nous écrire à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Inutile de nous téléphoner, vous ne trouveriez personne. Mercredi 6 janvier, nous vous attendons nombreux au Phytobar pour notre rencontre débat à 19h, 47 boulevard Saint-Germain. Le thème, ce sera médias et environnement. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Traduction, Hélène Joguet, Céline Leclerc, Elia Cohen. Mixage, Stéphane Touvenin. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne année à tous.